France Musique.
Journal présenté par Olivier Denray. Bonjour.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. La majorité en parle comme l'un des derniers grands projets de loi de ce quinquennat porté par la ministre de la Transition écologique. Le texte Climat et résilience est débattu à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il va occuper les élus du Palais Bourbon pendant 3 semaines. 69 articles issus des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Des mesures d'ores et déjà dénoncées par des dizaines de milliers de personnes qui hier ont défilé un peu partout en France. À l'instar du Haut Conseil pour le climat et des 150 citoyens de la Convention, les manifestants ont largement raillé un projet de loi qui, selon eux, rate complètement le coche d'une vraie transition. Avant d'être présenté aux parlementaires, le texte a été remanié par une commission spéciale. À quoi ressemble-t-il désormais ? Élément de réponse avec vous, Véronique Rebérotte.
À ce stade, le texte permet d'atteindre seulement la moitié des objectifs climatiques de la France fixés par l'accord de Paris. Réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, alors que l'objectif officiel au niveau européen est désormais de moins 55%. Le projet de loi remanié par la commission spéciale prévoit notamment la fin de la location des passoires thermiques en 2028, la construction de zones commerciales effrénées, les zones de restriction de circulation pour les voitures les plus polluantes élargies en 2024 aux villes moyennes. Les députés ont aussi validé en commission la mise en place d'un étiquetage environnemental sur les produits, un score carbone, mais sous forme d'expérimentation. Quelques députés marcheurs, aux amendements retoqués en commission, reconnaissent la faiblesse du texte, aux objectifs souvent non contraignants et lointains. Ils promettent de tenter de muscler le texte dans l'hémicycle, sur l'encadrement des publicités ou la rénovation des logements. Revoir par exemple un des amendements les plus polémiques adoptés en commission, celui sur la rénovation performante. Une rénovation pourra être qualifiée de performante pour un logement rénové au diagnostic de performance énergétique classé C ou D après travaux, des critères moins restrictifs qu'aujourd'hui. Dans l'hémicycle, l'examen promet d'être tendu entre ceux qui trouvent le texte encore trop frileux, ceux qui le considèrent encore trop dangereux pour certains secteurs de l'économie. Un affrontement mené à coups d'amendements. Pas moins de 7000 amendements ont été déposés.
Pas de nouvelles ce matin du Conseil scientifique. On nous promettait pourtant pour hier un avis sur les élections départementales et régionales et notamment sur le report ou non de ce scrutin à cause de la pandémie de Covid-19. On notera qu'au Chili, le président vient lui d'annoncer un report des prochaines élections en raison du coronavirus. La population devait élire dans les prochaines semaines les membres d'une assemblée constituante chargée de rédiger la future loi fondamentale du pays. Au Venezuela, Nicolas Maduro propose quant à lui du pétrole contre des vaccins. Le Venezuela est confronté en ce moment à une deuxième vague particulièrement virulente. Il a lancé au mois de février une campagne de vaccination avec les produits russes et chinois. Il a également réservé des centaines de milliers de doses via le dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. Mais les vaccins ne sont pas arrivés à cause d'un problème de dette entre le Venezuela et l'OMS. En Birmanie, plus d'une centaine de personnes sont mortes hier sous les balles des militaires. Plusieurs enfants font partie des victimes. C'est la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 1er février. Pour toute réponse, la communauté internationale a publié un communiqué commun signé par les chefs des forces de défense d'une douzaine de pays. Une condamnation qui ne risque pas d'ébranler la détermination des putschistes, comme le souligne Bénédicte Braque de la Perrière. Anthropologue et spécialiste de la Birmanie, elle rappelle au micro de Thomas Larabi que le régime a des liens militaires forts avec Moscou et Pékin.
Ce sont des fournisseurs d'armes de la Birmanie depuis le coup d'État. La Chine et la Russie ont effectivement mis leur veto à ce que des condamnations fermes soient prononcées sous le prétexte de non-interférence dans les affaires intérieures d'un pays. Donc c'est leur position habituelle. Ça n'a rien d'étonnant, mais ça a été perçu effectivement de manière extrêmement négative par la population birmane notamment, qui a pris ça pour un soutien de la junte. Ce que ça n'est vraisemblablement pas de la part des Chinois, le désordre qui règne actuellement en Birmanie est très contraire à leurs intérêts.
La Chine, qui vient par ailleurs de conclure avec l'Iran un accord de coopération stratégique et commerciale valable pour les 25 prochaines années. Il a été signé samedi à Téhéran par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Pour Pékin, cet accord s'inscrit dans son projet des nouvelles routes de la soie. Comme toutes les grandes réunions internationales en ce moment, la conférence des donateurs pour la Syrie, organisée aujourd'hui et demain à Bruxelles, aura lieu en visioconférence. Les Américains ont fait savoir hier qu'ils seraient finalement de la partie. L'objectif de ce rendez-vous est de collecter des fonds pour financer les actions humanitaires destinées à plus de 11 millions de réfugiés syriens dispersés depuis 10 ans au Moyen-Orient et dont le sort, Christian Chesneau, pourrait à terme ressembler à celui des réfugiés palestiniens.
Pour les réfugiés syriens, le retour au pays n'est pas pour demain, faute de solutions politiques et de conditions sécuritaires satisfaisantes. À l'instar des réfugiés palestiniens qui croupissent encore dans des camps depuis les guerres israélo-arabes de 1948 et 1967, l'exil des Syriens risque lui aussi de s'éterniser, reconnaît Jean-Bertrand Motte, responsable du département crise et conflits à l'Agence française de développement, un des donateurs à la conférence de Bruxelles.
Le parallèle est intéressant. Ce qui importe pour nous, c'est d'être en mesure de répondre aux besoins aujourd'hui sur le terrain. Et force est de constater qu'avec 5,6 millions de réfugiés syriens sur ces pays du Moyen-Orient, on a une installation durable qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, être en mesure d'apporter à la fois de l'aide aux populations vulnérables que constituent les réfugiés syriens et aussi les communautés hôtes qui vivent eux-mêmes leur crise de leur côté, avec une crise économique, sociale, politique très forte au Liban, par exemple. Mais c'est notre responsabilité à nous d'apporter une réponse de temps long face à cette installation pérenne des réfugiés syriens.
Ces derniers ont encore les clés de leurs habitations, mais celles-ci ont souvent été détruites dans les combats ou parfois carrément récupérées par des familles restées sur place, quand ce n'est pas le régime syrien qui a exproprié les anciens propriétaires, ce qui rend le retour des réfugiés encore plus hypothétique.
Une journée printanière pour tout le monde. Il fera beau quasiment partout. Les températures iront cet après-midi de 18 à 26 degrés. Gabriel Oliver Aguillon.
Merci beaucoup Olivier Denré. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.